France Inter, 7h30. Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, l'inquiétude des Restos du Cœur face au nouveau budget européen. L'association craint une baisse de moitié des aides alimentaires pour les plus pauvres. Reportage au sein des restos à suivre dans un instant. C'est l'une des surprises de Parcoursup. Les étudiants réussissent mieux leur première année de fac. Résultat, il y a parfois trop d'étudiants en deuxième année. Reportage à la Sorbonne, université débordée. À suivre également après le psychodrame parisien autour des municipales, le duel sans fin à Lyon entre les deux candidats d'En Marche. Ces villes qui ont réussi à réduire leur empreinte carbone, réunion aujourd'hui du C40 à Copenhague. Et puis pour finir, un méchant comme on les aime, le Joker sort aujourd'hui au cinéma avec Joaquin Phoenix dans le rôle titre.
Au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, aujourd'hui la réalisatrice Mounia Medour et les actrices Lina Koudry et Chirine Boutella pour le film Papicha.
France Inter.
L'aide alimentaire, Sébastien, pour les pays les plus démunis, est-elle aujourd'hui menacée par l'Europe ?
C'est ce que croient les Restos du Cœur qui, depuis plusieurs mois, font campagne afin de sensibiliser sur cette question. Au départ très technique, mais aux conséquences potentiellement dramatiques. Voilà l'équation. Chaque année, les quatre plus grandes associations caritatives françaises reçoivent 500 millions d'euros de l'Europe pour l'aide alimentaire. Or, le prochain budget européen, actuellement en discussion entre le Parlement et la Commission de Bruxelles, pourrait voir cette aide diminuée de moitié. Les Restos du Cœur tirent donc le signal d'alarme et cherchent des alliés pour défendre leur cause. Ils en ont trouvé un de taille. Hier, le nouveau président du Parlement européen en personne, l'Italien David Sassoli, que France Inter a pu suivre en exclusivité. Visite dans les locaux hier des Restos du Cœur à Paris avec Delphine Simon.
Au milieu des rayons de briques de lait et de légumes en conserve, des affichettes avec le drapeau européen. Les bénéficiaires ne s'attardent pas à les lire, mais pour tous, c'est essentiel. Un quart des aliments distribués ici est acheté grâce au Fonds européen d'aide aux plus démunis. Françoise, bénévole.
C'est une grosse partie du lait, c'est des céréales, c'est des protidiques, viande hachée et des poulets. Sans le Fonds européen, on va avoir du mal hein, à servir tout le monde.
Car dans le prochain budget européen, cette aide alimentaire pourrait être fortement diminuée. Le président des Restos du Cœur, Patrice Blanc.
Nous craignons d'abord une dilution de l'argent et une diminution du montant budgétaire. Les premières prévisions de l'ancienne Commission européenne, c'était une division quasiment par deux. Pour nous, ce serait catastrophique.
Cette aide européenne, il faut la maintenir et même faire mieux, dit le nouveau président italien du Parlement européen, David Sassoli, venu négocier le budget à Paris.
On doit défendre la possibilité d'augmenter les fonds pour les citoyens en difficulté. Si les budgets ne correspondent pas à la volonté du Parlement, les parlements, ils ne votent pas ces budgets.
Pour les Restos du Cœur, la balle est donc dans le camp d'Emmanuel Macron.
Delphine Simon, précisons que les députés européens ont un droit de veto sur le budget pluriannuel. Les discussions sont actuellement donc en cours entre Strasbourg et Bruxelles, encore pour des mois, jusqu'au 1er janvier 2021. Toujours dans l'actualité européenne, ajoutons que la candidate française à la Commission européenne, Sylvie Goulard, a répondu hier par écrit aux questions sur son intégrité posées par les eurodéputés qui doivent valider sa candidature après son audition jugée insuffisante. Si ses réponses s'avèrent insatisfaisantes, elle pourrait passer dès demain une seconde audition au Parlement européen.
Il est 7h33 et c'est une conséquence inattendue de Parcoursup.
Certaines universités voient leurs effectifs de deuxième année nettement augmenter. C'est la suite logique d'un constat que nous faisions déjà il y a quelques jours. Avec cette nouvelle plateforme, les étudiants sont de fait davantage sélectionnés en fonction de leur dossier. Leurs résultats sont donc meilleurs en première année et résultats, ils sont plus nombreux à réussir leurs examens et à arriver en deuxième année, sauf que les universités ne s'y étaient pas préparées. À la Sorbonne, par exemple, cela pose de gros problèmes de place et de gros sous, Sonia Princey.
Dans cette université qui accueille 55 000 étudiants, les taux de réussite en première année en licence 1 n'ont jamais été aussi bons, comme le note Marie-Céline Daniel, la vice-présidente chargée de la formation.
On constate une hausse de 5 points, ce qui veut dire qu'à l'échelle de l'université, on serait au-dessus des 50% de taux de réussite en L1, avec des écarts importants du côté des sciences. On est à presque 70% de réussite en première année contre environ 60% l'année précédente. On a eu le sentiment qu'il y avait eu moins d'abandon et que donc les étudiants se sentaient plus à leur place dans les filières qu'ils avaient choisies.
Effet positif de Parcoursup, c'est évidemment une bonne nouvelle pour le président de Sorbonne Université, Jean Chambaz, mais qui a tout de même des incidences.
Ça a un effet paradoxal. Ayant plus d'étudiants qui réussissent, on a plus d'étudiants en deuxième année. Si c'est cumulé avec la réorientation des étudiants de première année de médecine qui ne sont pas reçus en médecine, mais qui passent en deuxième année, notamment en biologie, on arrive à saturer complètement nos capacités d'accueil en deuxième année de licence, l'an prochain en troisième année de licence, ce qui rend impossible qu'on augmente les capacités d'accueil en première année.
Or, seules les universités qui augmentent leurs capacités d'accueil en première année de licence bénéficient de dotations supplémentaires. Pour les autres, cette hausse des effectifs en deuxième année se fait sans rallonge budgétaire.
Sonia Prince, les grandes manœuvres chez Renault alors que son allié Nissan a changé de direction. Hier, c'est au tour du constructeur français de modifier sa structure dirigeante. Selon le Figaro, le président de Renault va proposer au conseil d'administration de remplacer l'actuel directeur général Thierry Bolloré, ancien bras droit de Carlos Ghosn. En bref, encore en économie, le site de General Electric de Belfort lui est bloqué depuis hier soir à l'initiative de plusieurs salariés qui dénoncent le plan de suppression proposé de postes proposé par la direction. Direction maintenant la capitale des Gaules, la ville de Lyon, théâtre d'un psychodrame politique qui n'en finit pas. À 6 mois des municipales, 2 hommes sont en guerre ouverte, le maire de Lyon, Gérard Collomb, et le président de la métropole, David Kimmelfeld. Tous deux se réclament de La République En Marche et tous les deux veulent briguer la métropole et ses 59 communes plutôt que la seule mairie de Lyon. D'après nos confrères des Échos ce matin, La République En Marche aurait tranché pour investir Collomb, information toutefois démentie au siège du parti. Bref, rien n'est réglé et l'affaire commence à agacer le chef de l'État, Yael Gauz.
Début juillet, il avait joué les casques bleus, dînant avec l'un à la brasserie Léon, petit déjeunant ensuite avec l'autre. Mais cette fois, plaisante-t-on à l'Élysée, on laisse la police faire son travail. Emmanuel Macron n'aura pas le temps, agenda trop serré, et puis ce serait dérisoire vu les enjeux mondiaux de la conférence pour laquelle le président se déplace. À la fin de l'été, l'accord semblait imminent, mais vendredi dernier, le tête-à-tête a viré au duel, David Kimmelfeld menaçant même, au micro de BFM, de se lancer sans investiture.
La République En Marche décidera en son âme et conscience, qui elle veut soutenir. Mais aujourd'hui, je vais bien évidemment rentrer en campagne et on ne peut plus attendre.
Et une date de meeting est même déjà programmée dans une semaine. Gérard Collomb, lui, garde le silence et tous les regards se tournent désormais vers Paris et la commission d'investiture. On tranche avant la fin du mois, assure la direction du mouvement, exaspérée par ce feuilleton sans fin dans une ville considérée comme acquise. C'est l'horreur. La machine à perdre est en marche, confie un cadre lyonnais, pour qui la crise rappelle furieusement celle qu'avait connue la droite, il y a 20 ans, et qui avait permis à la gauche de gagner la ville. Ni Kimmelfeld, ni Collomb ne lâchent sur la métropole, comme si la mairie de Lyon n'était plus qu'un lot de consolation. Des problèmes d'égo dévastateurs, estime un député lyonnais, et qui pourraient finir par faire fuir les électeurs.
Emmanuel Macron en profitera-t-il pour évoquer l'affaire avec les intéressés? Le chef de l'État débarque en tout cas ce soir à Lyon pour participer à la conférence pour reconstituer le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Objectif récolter 14 milliards de dollars pour les 3 prochaines années. On y revient dans le journal de 8 heures. Une autre ville au cœur de l'actualité aujourd'hui, Copenhague, qui accueille les maires d'une trentaine de grandes villes qui s'engagent pour le climat. On appelle cela le C40, un réseau mondial de grandes agglomérations qui s'unissent pour faire baisser leurs émissions carbone. Paris, Berlin, Chicago, Athènes, Barcelone en font partie. Réunion aujourd'hui dans la capitale danoise avec un bilan plutôt flatteur. Moins 22% de CO2 depuis que ces villes se sont lancés dans la lutte contre le réchauffement climatique, avec des écarts toutefois très importants selon les villes. Le palmarès avec Célia Kiray.
En haut du podium, Copenhague, la capitale danoise, est parvenue à réduire ses émissions de CO2 de 60% depuis 1991. Son principal atout, c'est la priorité aux cyclistes, avec des autoroutes à vélo en pleine ville et des transports en commun efficaces. En moyenne, ces 30 villes ont réussi à diminuer leurs émissions de 22%, mais il y a des écarts. À Paris, par exemple, les émissions de carbone n'ont diminué que de 12% depuis 2004. Globalement, ces villes se transforment. Il y a désormais plus de 60 000 bus électriques dans ces 30 villes, alors qu'il n'était qu'une centaine il y a 10 ans. Par ailleurs, 17 villes ont totalement interdit la circulation des véhicules les plus polluants. Elles n'étaient que 3 il y a 10 ans. Pour les ONG, ces villes jouent un rôle essentiel, surtout dans des pays climato-sceptiques comme les États-Unis. Mais cette moyenne de 20% de réduction des émissions n'est pas suffisante. Selon certaines modélisations, à l'échelle de l'Union européenne, il faudrait les réduire de 65% d'ici 2030 pour limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle.
Au chapitre climatique encore, la police londonienne a évacué hier les militants écologistes d'Extinction Rebellion qui s'étaient installés dans le quartier des ministères de la capitale britannique. Les militants français occupent toujours ce matin la place du Châtelet à Paris. Et puis dans les Hauts-de-France, les TER seront désormais gratuits lors des pics de pollution, annonce hier du président de la région, Xavier Bertrand.
Et on termine, Sébastien, avec la sortie ciné de la semaine, un film de méchant.
Et comme le disait Hitchcock, plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film. Alors celui-là sera-t-il réussi? Le Joker, en tout cas, arrive sur les écrans. Son réalisateur, Todd Phillips, connu pour avoir réalisé la comédie à succès Very Bad Trip, s'intéresse aux origines de l'ennemi emblématique de Batman. Et c'est Joaquin Phoenix qui joue le méchant, Eva Bettan.
La ville s'appelle Gotham City, mais ça pourrait être New York. Le futur Joker n'est encore que Arthur, adulte squelettique flirtant avec la folie. Folie dont le fameux rire pourrait être une manifestation, mais Joaquin Phoenix ne se contente pas de cette explication.
La deuxième hypothèse était que le rire, c'était Joker. Joker fait naître ses rires qui arrivent au mauvais moment pour qu'il ait l'impression que la société le prend pour un monstre et qu'il se mette à la haïr, ce qui prépare le terrain.
Le réalisateur a digéré la psychanalyse. Un adulte méchant a été un enfant malheureux. Le cinéma des années 70, la société produit ses monstres. Et quand Arthur Joker exulte de manière troublante en commettant ses premiers meurtres, Todd Phillips réfute l'idée que cela puisse être une réponse aux meurtres de masse que connaissent nos sociétés actuelles.
Ça n'a rien à voir avec des meurtres de masse. Il n'en commet pas. C'est un film à la Charles Bronson. Il prend sa revanche. Tous ceux que Joker tue dans ce film sont des gens qui pense-t-il, lui ont fait du mal. Il ne tue pas des gens au hasard. Je ne dis pas que ce n'est pas un fou, mais dans son esprit à lui, c'est justifié.
Le film épate, ce n'est pas rien. Et pourtant, il laisse perplexe. Collage de références parfois contradictoires, il ne dit rien de neuf sur l'origine du mal. L'envergure du film réside dans l'interprétation de Joaquin Phoenix.
Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, ça sort aujourd'hui.